14h56.
Chapitre 33. Le coupeur de lard.
Il ne me paraît pas mal à propos de profiter de ce chapitre pour mentionner un détail domestique du bord touchant les officiers d'un navire baleinier et qui est lié à l'existence d'une classe d'officiers harponneurs évidemment inconnue dans toute notre autre branche de la marine. L'importance considérable qui s'attache au métier de harponneur est clairement démontrée par le fait qu'à l'origine, dans l'ancienne flotte hollandaise, il y a au moins 2 siècles, le commandement d'un baleinier n'était pas confié au seul personnage aujourd'hui appelé le capitaine, mais était partagé entre lui et un officier nommé Specksinder. Littéralement, le mot signifie « coupeur de lard ». Mais avec le temps, l'usage en fit un synonyme de chef harponneur. À cette époque, l'autorité du capitaine était limitée à la navigation et plus généralement au gouvernement du navire, tandis que le Specksinder, ou chef harponneur, régnait en maître sur tout ce qui avait trait à la pêche. La marine anglaise du Groenland a conservé ce vieux grade hollandais sous la dénomination corrompue de Specksjonir, mais la dignité primitive de la charge est affreusement diminuée. Son titulaire est ravalé au rang de premier harponneur, ce qui fait de lui l'un des derniers subalternes du capitaine. Néanmoins, comme le succès d'une campagne de pêche dépend en grande partie de la parfaite compétence des harponneurs et que, sur les bâtiments américains, il est non seulement un officier important dans sa pirogue, mais peut-être chargé, dans certaines circonstances, un quart de nuit sur un lieu de pêche, du commandement du pont, les principes politiques du monde maritime exigent qu'il soit formellement séparé des marins du gaillard, d'avant, et reconnu d'une manière ou d'une autre, comme leur supérieur, dans le service, sans pourtant que ceux-ci cessent de le considérer spontanément comme leur égal du point de vue social. Il faut savoir qu'en mer, ce qui distingue principalement l'officier du matelot, c'est que celui-ci vit à l'avant et celui-là à l'arrière, d'où que sur les baleiniers, comme sur les navires marchands, les seconds ont leur quartier avec le capitaine. De même, sur la plupart des baleiniers américains, les harponneurs sont logés à l'arrière, c'est-à-dire qu'ils prennent leur repas dans la cabine du capitaine et dorment dans une chambre qui communique indirectement avec elle. Bien que la longue durée d'une campagne baleinière dans les mers du Sud, les plus longs voyages de beaucoup jamais faits par l'homme, les dangers très particuliers qui lui sont inhérents et la communauté d'intérêt qui prévaut parmi un équipage dont tous les membres, du premier au dernier, tirent leurs bénéfices, non pas de gages fixes, mais des caprices d'une commune fortune, ainsi que de la vigilance, de l'intrépidité et du labeur de tous, bien que tous ces facteurs contribuent parfois à rendre la discipline moins sévère que sur la plupart des navires de commerce, et malgré quelques ressemblances de la vie collective de ces hommes, pour certains aspects archaïques, avec celle d'une famille de l'antique Mésopotamie, le rigoureux protocole, du moins celui du gaillard d'arrière, n'est concrètement assoupli qu'en de rares occasions, et il n'est jamais supprimé. À vrai dire, nombreux sont les navires de Nantucket qui vous offriront le spectacle de leur patron paradant sur son gaillard d'arrière avec un air de majesté exultante qu'on ne verrait sur aucun bâtiment de guerre et cherchant presque à arracher autant d'hommages que s'il portait la pourpre impériale et non un piètre drap pilote. Et quoique l'ombrageux capitaine du Peco fût bien le dernier des hommes à afficher d'aussi creuses prétentions, quoique la seule marque de respect qu'il exigea fut une obéissance immédiate et sans réserve, qu'il n'obligea personne à ôter ses souliers avant de poser les pieds sur le gaillard d'arrière, et qu'à certains moments, pour des raisons particulières liées aux événements qui vont être narrés, il s'adressa à l'équipage de manière inhabituelle, avec condescendance, ou bien in terrorem, ou autrement encore, portant le capitaine à cab. Oui, même lui ne laissait pas d'observer l'étiquette et les sacro-saints usages de la mer. Cependant, on ne manquera pas de noter, un peu plus tard, qu'il lui arrivait de se cacher derrière ses formes et usages comme derrière un masque, et de s'en servir, le cas échéant, à des fins personnelles bien différentes de leur destination légitime. par leur biais un certain satrapisme de ce cerveau, qui, autrement, ne se fût qu'incomplètement manifesté, prit corps dans une dictature irrésistible. Car si, grande que ce soit, que soit sa supériorité intellectuelle, un individu ne peut jamais atteindre à une dénomination pratique sur d'autres hommes sans le secours de certains artifices ou de dissimulations, toujours plus ou moins dérisoires et indignes. C'est là précisément ce qui éloigne à jamais les vrais princes de l'Empire, les princes de Dieu, des réunions électorales de notre monde, et abandonne les plus grands honneurs qui se puissent attribuer ici-bas à ceux qui doivent leur célébrité à leur infériorité absolue par rapport à la poignée des élus clandestins sur qui souffle l'esprit de la divine inertie, plutôt qu'à leur incontestable supériorité sur la masse uniforme. Cependant, ces petites choses recèlent tant de vertus quand les superstitions politiques les plus extrêmes s'en mêlent, qu'on a pu les voir dans certaines cours faire des plus fieffés imbéciles des personnages considérables. Mais lorsque la couronne scinde de son cercle outre les terres de l'Empire un cerveau impérial, comme ce fut le cas pour le tsar Nicolas, alors le troupeau de la plèbe se couche servilement devant une si formidable concentration de puissance. Et le poète tragique qui veut dépeindre l'homme indompté au comble de sa force et de sa plus terrible énergie fera bien de ne pas ignorer la remarque, si importante pour son art, soit dit en passant, que nous venons de glisser à mi-mot. Mais Akab, mon capitaine, ne cesse de se mouvoir devant moi, rude, farouche, comme tous les marins de Nantucket. Et dans cet épisode où sont évoqués roi et empereur, je ne dois pas dissimuler que je n'ai affaire qu'à un pauvre chasseur de baleines, plutôt jeune. Les pompes et la para, signe extérieur de la majesté, me sont donc interdits. Ô Akab, ce qui fait ta grandeur, il me faudra l'arracher au ciel, le ramasser dans les profondeurs de l'océan, le sculpter dans l'air immatériel.